On va aujourd'hui diffuser la suite et la fin du XXe siècle de Ben Saïd. Alors tout ça s'est passé il y a quelques mois avec Guillaume, Gwen et Marion. On s'était retrouvés autour de quelques micros avec Daniel Ben Saïd, à qui on avait proposé de réagir autour de 13 dates qui nous permettaient de parcourir le XXe siècle. À la fois sur deux aspects, évidemment la question du mouvement ouvrier et aussi la question internationale. Alors on s'est promené de la Russie à l'Allemagne, au Chili, à la France, à l'Espagne, etc. Et donc on va arriver ce soir au dernier épisode, de 1996. Pour évoquer après la fin de ce court XXe siècle que les historiens s'accordent à borner entre 1917, la révolution en Russie, et 1989, la chute du mur de Berlin. On avait voulu rajouter une date. La date, c'était 1996, autour des mobilisations autour des sans-papiers, pour évoquer ce cycle nouveau de lutte qui pouvait s'inaugurer suite à la chute du mur de Berlin. Alors on va commencer par revenir au départ, puisqu'il y a un mois et demi on vous diffusait le premier épisode. On vous proposait de réentendre cet épisode. On va se retrouver en 1917 avec Daniel Ben Saïd qui nous raconte, tonton Daniel Ben Saïd qui nous raconte la révolution du tonton Lénine.
Octobre 1917. 25 octobre 1917. Alors, trouver un point de départ pour évoquer l'histoire du mouvement ouvrier dans son temps long n'est pas évident. On aurait pu choisir 1864 et la création de la première internationale des travailleurs. On aurait pu prendre 1871 et la commune de Paris. Alors, choix plus académique ou scolaire, peut-être, on a choisi le 25 octobre 1917 et la prise du palais d'hiver. Alors qu'on est en plein dans la Première Guerre mondiale, en Russie, sous l'impulsion de Lénine, les gardes rouges prennent le contrôle de Pétrograd dans la journée du 24 octobre 1917 et le 25 au matin, c'est la prise du palais d'hiver. C'est aussi le tournant de la révolution russe. Et si nous évoquons cette date, c'est que cette révolution ouvre à nos yeux un cycle, une page de l'histoire d'un siècle marqué par l'exercice du pouvoir de certains régimes qui se réclament du socialisme et du mouvement ouvrier. Alors, ça ouvre plein de questions. Qu'est-ce qui se passe en octobre 1917 en Russie? Et quel sens on peut donner à ces événements aujourd'hui, avec presque un siècle de recul? Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est la figure de Lénine, et derrière ça, du léninisme, qui fut une figure centrale pour le mouvement ouvrier au XXe siècle.
Alors bon, tout d'abord, je crois que la date choisie, effectivement... La Commune ou 1864 auraient pu être des bonnes dates, voire même 1848, pourquoi pas. Mais effectivement, je crois que octobre, par l'écho et les répercussions internationales, par le fait que ça a été un des événements qui ont conditionné ou déterminé à peu près tout le court XXe siècle ou siècle des extrêmes, selon les différentes formules des historiens, de ce point de vue-là, aussi bien historique que symbolique, c'est effectivement une date fondatrice ou une date inaugurale. Alors, il y a plusieurs problèmes qui, enfin, ou plusieurs choses qui s'investissent dans la lecture d'octobre. Aujourd'hui, l'astre est presque éteint, donc on a du mal à imaginer à quel point. La nouvelle est dans l'immédiat, la bonne nouvelle d'octobre, on peut dire, a pu avoir d'influence en Europe et même à l'échelle internationale, comme un acte de libération double. C'était d'une part la première révolution socialiste du siècle et même d'une certaine manière de l'histoire, puisqu'on connaît ou on répète souvent l'anecdote de Lénine dansant dans la neige quand la révolution, le pouvoir issu d'octobre a tenu plus longtemps que la Commune de Paris. Bien, donc c'était l'idée que c'est possible, d'une part, une idée d'émancipation sociale, et en même temps, l'idée que l'émancipation sociale allait de pair avec l'idée de la paix. Parce qu'une des grandes raisons de l'impact de la révolution d'octobre, au-delà des frontières de ce qu'était alors la Russie, c'est effectivement cette idée de la paix, de plus jamais ça. C'est sûrement un des ressorts principaux, par exemple, qui a donné la majorité à la composante communiste au congrès de Tours. Moi, j'avais un vieil oncle qui avait été gazé dans la guerre de 14, qui s'est retrouvé dans le courant majoritaire du congrès de Tours, mais une des motivations principales, c'était la paix, plus jamais ça. Et la révolution russe semblait porter ce message-là, en même temps qu'un message de transformation sociale et d'émancipation. Alors après, évidemment, ça fait que on se chevauche un petit peu de lecture de la révolution d'octobre. Il y a une lecture historique ou historienne, rentrer dans l'événement, comprendre sa dynamique, ses contradictions, ses difficultés. Puis c'est quand même une révolution qui survient dans des conditions de pays dévastés, où la Russie, qui n'était pas très développée avant 14, est rejetée encore plus en arrière. Et elle le sera encore plus en 1921, à la fin de la guerre civile. Donc ça, c'est les conditions de pénurie ou de dégâts sur lesquelles va pouvoir prospérer la bureaucratie. Mais dans le moment de l'événement, il y a surtout l'espoir, comme il y en a eu en Allemagne d'ailleurs, hein, si on lit le roman de Ernst Gleiser, « La paix », c'est la même aspiration, c'est où le social et la volonté de paix se combinent. Et puis se superpose à ça l'épopée héroïque d'octobre, c'est-à-dire la lecture... nous, on n'a pas vécu l'événement, on voit pas octobre où il y a peut-être des bribes de films, mais l'image qu'on a en tête d'octobre, c'est pas le reportage qu'on aurait aujourd'hui au journal de 20h. C'est le octobre d'Eisenstein, donc c'est déjà une sublimation symbolique de l'événement avec la qualité épique de la filmographie d'Eisenstein, etc. Donc, mais ça fait partie aussi de la réception de l'événement, de comment il a pu marquer l'imaginaire de centaines, voire de millions de gens, et pas seulement d'ailleurs dans les milieux ouvriers industriels d'Europe occidentale ou des États-Unis, hein, si on regarde le film Reds de Warren Beatty, on commence là aussi, chez les chauffeurs de camions de Minneapolis ou autre, comment cet événement a pu parler à une et même à des générations entières, parce que j'appartiens à une génération où c'était encore quelque chose qui faisait vibrer, qui n'avait pas l'image douteuse d'aujourd'hui. Alors, les deux problèmes sur lesquels on peut tomber, bon, tu as abordé le problème du léninisme, parce qu'il y a aujourd'hui une espèce de généalogie biblique à rebours. Si ça a mal tourné, si on a eu le totalitarisme bureaucratique, ce despotisme bureaucratique était en germe dans Lénine, qui était en germe chez Marx, lequel était en germe dans Rousseau. Bon, et on arrive à la faute à Rousseau, si ce n'est pas pire encore. Bon. Or, ce qui est important, c'est de repérer quand même les continuités et les discontinuités historiques. Des continuités, il y en a. C'est clair qu'on peut aujourd'hui repérer ce qu'étaient les limites et l'horizon de pensée de gens comme Lénine, et plus généralement d'ailleurs de la génération d'octobre, la génération de militants, qui sont tributaires de la culture, des modes de pensée de leur temps, et bon, qui ne voit pas, pour le dire quand même assez simplement, on est dans des sociétés qui sont à dominante rurale. Le rapport culturel à la violence n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. On peut avoir l'idée d'une violence innocente et libératrice après le nazisme, le goulag, la tragédie cambodgienne, les génocides du XXe siècle. on a un rapport beaucoup plus problématique à tout ça. Mais donc, il faut essayer de comprendre la démarche là-dedans. Et les mots mêmes ont changé de sens. Quand on parle à l'époque de dictature du prolétariat, c'est une dictature majoritaire qui s'oppose à la tyrannie dans le vocabulaire hérité du 19e et du 18e siècle. Et donc, qui n'est pas du tout un mot péjoratif et qui est la forme du pouvoir d'exception par lequel passe toute transition d'une société, d'un mode de domination à un autre. Bon, après Pinochet, Franco, Salazar, les colonels grecs, c'est clair que le mot aujourd'hui, la connotation prise dans le siècle l'emporte sur la vieille définition romaine. Bon, et ça sert à rien, on peut le faire dans des livres savants, mais personne comprendra ça à la première donnée. Donc il y a au contraire un Lénine très libertaire, ça on l'oublie, le Lénine de l'État et la Révolution. S'il a péché quelque part, c'est plutôt par l'illusion que l'État allait disparaître vite. Il y a même une lettre de Lénine au commissaire du peuple à la justice, où le gars, je ne me rappelle plus son nom, dit « bon, ben là on est dans un état d'exception où la loi est suspendue, mais il va peut-être falloir réécrire un code civil, etc. » Et Lénine dit « non, mais c'est pas la peine ». On n'aura pas le temps, puisque l'État va dépérir, le droit dépérira avec, et c'est même pas la peine de se compliquer la vie. Donc il y a plutôt une illusion sur le fait que si la révolution s'étendait, ça c'était la condition évidemment majeure à l'échelle européenne, bon, toutes ces formes hiérarchiques de domination et de pouvoir pouvaient dépérir, non pas à l'échelle historique, mais de manière, si ce n'est immédiate, du moins à court ou moyen terme. Donc le problème, est bien de situer, là, c'est pas ce qui est gênant dans des livres comme le livre noir du communisme, comme les livres de Furet, etc., c'est de lire l'histoire comme un enchaînement logique dans les idées. C'est-à-dire que le passage par les contradictions, les forces sociales en mouvement, les problèmes historiques, est complètement noyé et dissous dans une espèce de logique purement intellectuelle ou purement des idées. Non, alors ça, c'est le point fondamental. Ou bien on pense que tout ce qui s'est passé dans le siècle était déjà inscrit dans la Révolution d'octobre, parce que, ce qui était d'ailleurs à l'époque la version menchévique, parce qu'elle était prématurée, parce que les conditions sociales n'existaient pas, parce que donc on ne peut pas forcer la main de l'histoire, etc. Bon, et là, on refait le film à l'envers et on dit, mais il fallait pas faire. Bon. Et je crois que c'est la conclusion à laquelle arrivent pas mal d'anciens communistes ou même de direction de partis communistes. Ou bien on essaie de comprendre ce qui s'est passé, c'était pas fatal. Bon, un événement, et Dieu sait qu'une révolution, ou a fortiori celle que symbolise Octobre, est la définition de l'événement, c'est ce qui arrive et qui aurait pu ne pas arriver. Sinon, il n'y a pas d'événement, si c'était inscrit dans la logique antérieure. Alors, ça aurait pu ne pas arriver, c'est arrivé. Tout ne peut pas arriver, ça serait un miracle religieux. Ça arrive, mais c'est une possibilité qui se réalise, mais qui n'était pas fatale. Les conditions existaient, c'est arrivé, et après, l'avenir de l'événement dépend de ce qui se passe après. Et alors là, ou bien on considère que tout ce qui s'est passé dans le siècle, la défaite de la révolution allemande, la défaite de la guerre civile espagnole, que tout est fatal, dans ce cas-là, faut croiser les bras, aller se coucher, ou bien on pense qu'à chaque fois, les choses sont remises en jeu. Et dans le cas de la révolution russe, elles ont été remises en jeu à plusieurs reprises, dans la révolution allemande de 23, dans la lutte en Russie même entre les oppositions et la bureaucratie montante à la fin des années 20, dans la lutte contre la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne. Bon, c'est autant de bifurcations de l'entre-deux-guerres qui n'étaient pas jouées d'avance. Alors après, elles deviennent cumulatives, c'est autre chose. Mais la conclusion que nous, on en a tirée, c'est qu'il n'y a pas continuité, il y a bel et bien une contre-révolution, on peut l'appeler comme on veut, bureaucratique ou autre, à la charnière des années 20 et 30, et qui n'est pas un problème d'idées, qui est attesté par des millions et des millions de morts, qui sont différentes, par les famines, par les purges, par les déportations, etc. Mais il y a là un élément de discontinuité qui, je crois, mérite pleinement le terme de contre-révolution. Le problème, c'est que Y compris d'ailleurs les oppositionnels de gauche comme Trotsky n'ont pas forcément totalement compris la chose parce qu'ils attendaient une contre-révolution qui soit le symétrique de la révolution, c'est-à-dire un coup de force qui renverse complètement ce qui avait été fait. Or, j'ai découvert tardivement, comme quoi il faut lire les réactionnaires, chez Joseph de Maistre, qui lui avait la contre-révolution thermidorienne sous les yeux après la Révolution française, et qui dit, mais une contre-révolution, ce n'est pas une révolution en sens contraire, c'est le contraire d'une révolution. Donc, il n'y a pas de symétrie. La manière dont se défait, finalement, ce qu'a fait une révolution se passe autrement. Ça s'est passé Thermidor et pas le symétrique du 14 juillet ou des journées de septembre 92, etc. Et de la même manière, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, donc, mais... Pour nous, l'important, si on ne veut pas perdre le fil, c'est de repérer cette discontinuité. Après, il y a des débats, on peut avoir sur la datation, comment ça a commencé, comment ça a été préparé ou facilité par certaines faiblesses dans le logiciel bolchevique lui-même. Le logiciel, il n'est pas absolu, mais bon... Le texte de Trotsky, écrit en pleine guerre civile, terrorisme et communisme, est un texte à certains égards aujourd'hui effrayant. C'est le mauvais côté de Trotsky. C'est l'idée que la dictature prolétaire est un état d'exception, certes, mais quand doit finir l'état d'exception ? En 1921, quand on a gagné les guerres civiles, beaucoup de mesures d'exception pouvaient être suspendues. Au contraire, il y a eu un durcissement de l'autoritarisme du régime et une évolution renforcée vers le parti unique. Ça, et là, je crois que, par exemple, à l'époque, ils ne pensaient pas, comme un problème de principe, la question du pluralisme politique. Ils avaient l'impression que si on avait supprimé les bourgeois, le prolétariat serait naturellement bon et reconnaîtrait ses intérêts. Il a fallu du temps pour admettre que même après une révolution, les anciens opprimés ou dominés ne sont pas pour autant homogènes, que donc les contradictions doivent pouvoir s'exprimer par l'indépendance des syndicats, par une pluralité politique, etc. Mais voilà les... Alors, dernier point peut-être, c'est de savoir jusqu'à quel point octobre, parce qu'il y a ça aussi derrière, qui a été une date fondatrice, pas seulement par l'impact de l'événement, mais parce que ça a été aussi le point de division fondamental de courant du mouvement ouvrier. Enfin, le point de partage entre la Deuxième Internationale et l'Internationale communiste. Les leçons d'octobre, pour prendre le terme le plus général, ont servi de fondement à toute une tradition du mouvement ouvrier, avec ses bons et ses mauvais côtés, etc. Alors, reste à savoir si fermer, certains pensent que le court XXe siècle de la guerre de 14 et de la révolution de 17 à la chute du mur de Berlin a été une parenthèse, après quoi l'histoire rentre dans la norme, si tant est qu'il y ait une norme historique, ce qui serait une autre question. Mais une fois fermée la parenthèse, donc, la division provoquée par qui est la conséquence de la révolution russe, congrès de Tours, congrès de Livourne en Italie, scission du Parti socialiste ouvrier espagnol, etc. Enfin, ça a quand même divisé à l'échelle internationale. Si cette division est aujourd'hui un non-sens et qu'il suffirait de revenir au mouvement ouvrier unifié œcuménique d'avant 1914. Mais c'est une idée qui est discutée, hein, c'est pas... Dans la plupart, il y a toujours, dans tous les partis communistes aujourd'hui, rénovés, relookés ou pas, etc., cette question est posée. Bon, moi, je pense pas. Je pense qu'on entre dans une nouvelle étape, mais que la nouvelle étape, selon une formule qui maintenant m'est chère, on recommence par le milieu, mais on recommence pas à zéro non plus. Thank you.
Con una azadilla al hombro, en la boca un dulce cantar, en la boca un dulce cantar, y mucho valor en el alma, se iba al campo a desuñar. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra sin descansar, sin poner buena o mala cara, sin tener celos ni rencor, sin tener celos ni rencor, labraba los campos ajenos, cavando siempre con ardor. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra sin descansar. A ganar el pan de su vida, desde el alba al anochecer, desde el alba al anochecer, seguía cavando la tierra en todo tiempo y por doquier. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra sin descansar. Y cuando le avisó la muerte que por fin llegaba al final, que por fin llegaba al final, abriéndose la propia tumba, ganó su último jornal. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra sin descansar, abriéndose la propia tumba, ganó su último jornal, ganó su último jornal, y se tumbó sin decir nada, él no quería molestar. Pobre Martín, pobre miseria, duerme la tierra, duérmete en paz.
Voilà, grosse ambiance dans les studios de FPP, où on est toujours avec l'émission Les Oreilles Loin du Front. Alors, pour continuer, et puis pour terminer, on va entendre le dernier des 13 épisodes du 20e siècle de Daniel Ben Saïd. Et voilà, donc on va retrouver une dernière fois Ben Saïd, un des intellectuels les plus combatifs, de ceux qui depuis 30 ans, 40, 50 peut-être maintenant, on a les 40 ans, qui ne baissent pas la garde, mais qui restent relativement lucides sur ce que sont les luttes, sur ce qu'est le mouvement ouvrier. Alors derrière cette dernière date qui se place en 1996, la question peut-être plus large, c'est quoi après le 20e siècle. Alors début de réponse avec Daniel Ben Saïd. Ah ouais, ça fait trop.
août 1996, l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Le 23 août 1996, nous ne sommes quasiment plus au XXe siècle, vers 6h du matin, des centaines de gardes mobiles et de CRS venaient déloger quelques 300 sans-papiers réfugiés depuis le début de l'été dans l'église Saint-Bernard, dans le nord de Paris. Parmi eux, 10 grévistes de la faim en grève depuis près de 2 mois. Autour d'eux, des centaines, voire des milliers de militants qui dormaient sur place et protégeaient l'accès à l'église depuis plusieurs semaines. Mobilisés depuis le 16 mars 1996 et l'occupation fortement symbolique de l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement, les immigrés sans titre de séjour font cette année-là une irruption retentissante dans le paysage politique. Si nous retenons cette date, c'est qu'elle peut apparaître comme symbolique des ce qu'on a appelé nouveaux mouvements sociaux qui se développent dans les années 90 autour des questions de logement, de l'antifascisme, des chômeurs, puis de l'altermondialisme et bien sûr de l'immigration. Mais aussi parce qu'elle incarne une certaine forme de solidarité dans les rapports Nord-Sud. Alors vous nous direz peut-être si cette mobilisation et celles qui vont l'accompagner dans les années suivantes inaugurent un nouveau cycle de lutte et un nouveau cycle de rapports aux questions politiques et aux politiques.
Il y a deux aspects intéressants dans la question. Le présent et l'avenir, mais en même temps aussi un retour sur le passé. Effectivement, elle a beaucoup marqué là aussi les mémoires, la lutte de Saint-Bernard, l'irruption policière, et mis la question des sans-papiers à la une de l'actualité comme un problème politique majeur, c'est-à-dire la fait sortir de l'ombre pour en faire un problème politique. Mais elle révèle aussi toute une histoire préalable des mouvements de l'immigration et de la main-d'œuvre immigrée en France. Je parle de l'immigration économique, je ne parle pas des immigrations politiques comme l'immigration espagnole avant, mais celle qui a accompagné la croissance des années 50-60. À l'époque, on peut dire qu'il y a, on l'a trop oublié, ou du moins on ne le rappelle pas assez à mon gré, qu'il y a eu un mouvement de travailleurs immigrés sous différentes formes, mais dans les années 60 d'abord, il y a toute une participation de la main-d'œuvre immigrée au mouvement ouvrier français, tout simplement syndical. Et puis, il y a des formes d'organisation spécifiques, comme l'Union des travailleurs sénégalais, qui a été animée par un ami à une époque qui s'appelait Sali Dongo, qui a publié un bouquin chez Maspero sur cette expérience-là. Si on regarde les années 60, il y a eu des mouvements comme le mouvement des travailleurs arabes, ou encore d'ailleurs sur la main-d'œuvre africaine, Gilles de Stahl, ancien militant de l'OCT, vient de publier un livre qui s'appelle Mamadou Madi, qui retrace cette histoire-là de leur désorganisation de main-d'œuvre immigrée au lendemain de 68 principalement. Parce qu'évidemment, 68 a donné un coup de fouet et on a eu, dans tout le début des années 70, des luttes de travailleurs immigrés, soit par les syndicats, les travailleurs sénégalais, c'était surtout chez les balayeurs et dans les entreprises de nettoyage ou dans le bâtiment, mais on a eu les luttes aussi sur les résidents dans les foyers Sénacotra. Donc il y a eu une activité forte au début des années 70. Et pourquoi rappeler ça? C'est pour insister sur la cassure, à mon avis dramatique, et le mot est peut-être faible, qui s'est produite justement dans les premières années du gouvernement Mitterrand, et je crois la date exacte doit être 83, sous le gouvernement Mauroy, quand André Mauroy, alors Premier ministre, ou encore Premier ministre, donc c'est au plus tard début 83, a parlé d'une grève des travailleurs de Citroën-Aulnay comme une grève islamique. Et c'était la première fois que dans un discours gouvernemental, dans une parole d'État, finalement, on retirait à ces travailleurs leur identité sociale. On n'en parlait plus comme des travailleurs, mais on les présentait par leur religion ou par leur supposée appartenance confessionnelle. Je crois que ça, c'était criminel, parce que au moment où commençait à monter le chômage, et c'est ce contexte-là qui finalement, quand on y ajoute de la part des municipalités communistes, la fameuse histoire des bulldozers d'Ivry, etc., c'est qu'au moment où arrive la première onde de choc de la crise, du chômage, etc., au moment où il faut serrer les rangs de la solidarité ouvriers, nationaux, étrangers, etc., c'était ouvrir une brèche dans laquelle s'est engouffré évidemment le discours de Le Pen et sur lequel il a fait son miel pendant des années par la suite. Alors finalement, si on resitue par rapport à ses antécédents la lutte de 96 et sa cristallisation autour de la lutte de Saint-Bernard et de l'occupation de l'église Saint-Bernard, elle marque une nouvelle inflexion, peut-être encore un renversement de tendance, mais quand même le début. C'est-à-dire que, je disais, au lieu de raser les murs, les travailleurs sans papier revendiquent leurs droits, suscitent un soutien dans la population, et on n'est pas au bout de nos peines, hein, puisque Le Pen va encore grossir électoralement jusqu'au moins 2002 à sa présence au deuxième tour de la présidentielle. Mais on est déjà dans une modification du regard sur l'immigration et le sans-papier, qui n'est plus simplement un clandestin menaçant, etc. Le maillon suivant, il est venu très vite, c'est quand même la riposte là, très très large qu'il y a eu face aux lois Pasqua-Debré de février 1997, où là, on a eu les grosses manifestations un peu avant les élections législatives, et peut-être même ça a joué d'ailleurs dans la défaite de la droite à l'élection législative anticipée de 1997. Bon, ça, c'est un changement important, et d'autant plus important que c'est la période où, parallèlement, on assiste à une montée du racisme et du discours raciste qui va culminer, encore une fois, avec les scores records de Le Pen en 2002. Et un racisme dont on constate, par exemple, dans les études sociologiques, dans l'enquête faite par les sociologues Beau et Pialou sur le bassin de Montbéliard, qu'il s'enracine dans l'insécurité sociale. Ils décrivent très bien le fait qu'on a souvent dit d'ailleurs qu'une partie de l'électorat Le Pen était passée sans transition du Parti communiste à Le Pen. On peut exagérer, mais le phénomène partiellement au moins a eu lieu. Et Beau et Pialou montrent très bien sur le bassin de Montbéliard, c'est-à-dire tout autour d'Audincourt, etc., des usines Peugeot, que ce qui a cristallisé un discours raciste dans le monde ouvrier, non pas dans le monde politique, c'est pas par rapport, justement, beaucoup moins. Le racisme a toujours existé, sûrement à l'état latent, il s'est toujours manifesté plus ou moins ouvertement, mais il était différent, en tout cas, où il s'exprimait avec plus d'inhibition quand le travailleur étranger, arabe, malien, était le compagnon, le camarade de travail à Renault, à Peugeot ou ailleurs. Et ce qui a incarné, finalement, le fantasme et la peur de l'étranger, c'est beaucoup plus la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants d'immigrés à qui on avait promis par ailleurs une promotion sociale et notamment une promotion par l'école, et qui sortent de l'école à un moment de montée du chômage où ils sont doublement frustrés, c'est-à-dire ils sont exclus du monde du travail et en plus relativement diplômés, donc ayant finalement acquis un bagage culturel qui se trouve débouché sur rien. Bon, et c'est là-dessus, en tout cas sur la région, mais je crois que ça pourrait être élargi, que s'est cristallisé le phénomène. Alors, 96 Saint-Bernard comme point de départ d'un changement de regard sur l'immigration, d'un contexte plus général, et tu l'as rappelé, où ce sont les années tournantes finalement. Si on peut considérer les années 80 comme les années horribilis, le petit tournant est vérifiable et symbolisé sur le plan international en 94 par l'insurrection zapatiste de janvier 94 et par les grèves de 95 en France. Donc je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais avec la mobilisation sociale de l'hiver 95 en France, se crée incontestablement un nouveau climat. Un début de remobilisation sociale, une reprise de confiance qui est très probablement propice au fait que ces travailleurs sans papier se risquent à sortir de l'ombre et à poser leurs problèmes comme un problème politique, collectif, sur la place publique. Alors maintenant, de ce point de vue-là, disons, on peut considérer que la lutte de Saint-Bernard est doublement symbolique, c'est-à-dire, tu l'as dit, d'une nouvelle forme ou d'une nouvelle revendication de solidarité nord-sud au moment où est également en gestation le mouvement altermondialiste qui va surgir directement dans la foulée avec les manifestations de 99 à Seattle et la renaissance des mouvements sociaux mais qui vont se redéployer avec le mouvement des sans-papiers. Les luttes des femmes qui ont eu lieu déjà d'ailleurs dans l'hiver 95, qui a été un prélude aux grèves de l'hiver 95, les luttes sur le logement, les mouvements écologistes sur les OGM. Donc on peut dire que le mouvement des sans-papiers qui acquiert à ce moment-là un visage, des porte-paroles, hein, Boubacar, la camarade sénégalaise Madigène, etc. Donc, c'est très important. C'est un mouvement qui a un visage. C'est-à-dire que c'est important d'avoir un visage humain. C'est plus cette espèce d'ombre inquiétante qui n'a pas de visage, mais qui redevient un acteur politique. Et ça, je crois que c'est symbolique d'un phénomène nouveau. Alors, depuis, évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein, ça fait déjà 12 ans, Saint-Bernard, aujourd'hui. Mais il faut dire que, non pas de manière linéaire et sans recul et régression, mais on a quand même regagné du terrain sur cette question-là, et notamment contre le racisme. Je ne veux pas revenir sur le bilan contradictoire au demeurant hein, de SOS Racisme, qui a eu ses bons côtés et d'autres plus discutables. C'est que, notamment dans les mouvements d'immigration aujourd'hui, beaucoup considèrent que l'apparition et la médiatisation avec l'appui du gouvernement de SOS Racisme a pratiquement tué dans l'œuf la naissance d'un mouvement social issu de l'immigration au moment de la marche des beurs de 82-83. Bon, il y a une part de vrai là-dedans. Mais disons que depuis Saint-Bernard, il y a eu, avec beaucoup de difficultés et des coups d'arrêt, en reconquête du terrain. La grande déception, c'est que dans la foulée de Saint-Bernard, la gauche revenant au gouvernement en 1997 s'est présentée une opportunité de régularisation massive des sans-papiers qui en faisaient la demande. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et qui est très important, c'est que dans les luttes récentes, dans certaines d'entre elles au moins, ça ne résout pas le problème de tous les sans-papiers et de la régularisation, mais on a vu à la pointe des luttes récentes réapparaître la notion de travailleurs sans papier, y compris donc de travailleurs qui, depuis 10 ans, travaillent, paient des cotisations sociales, paient des impôts, touchent un salaire et en même temps sont toujours sans papier. Autrement dit, ceux-là ont reconquis leur nom de travailleurs, mais quand ils disent, notamment les travailleurs de la restauration qui ont été les premiers en mouvement là-dessus, quand ils montrent leurs papiers depuis 10 ans, ça veut dire que ce sont très exactement les déboutés de la régularisation de 97-98, quand il aurait été possible, justement, d'éliminer cette zone de l'endroit, ce qui était pas seulement un geste de générosité ou de solidarité, mais l'intérêt commun de travailleurs français et immigrés. C'est-à-dire éliminer le travail clandestin et la corvéabilité ou la vulnérabilité d'un travailleur sans papier. Recréer des solidarités, c'est de l'intérêt du sans-papier, évidemment, qui peut lutter ouvertement pour ses droits, mais c'est aussi l'intérêt du travailleur français que de ne pas subir, finalement, un dumping social d'une main-d'œuvre vulnérable et corvéable à merci. Bon, c'est encore une responsabilité de la gauche très lourde, parce qu'après l'effet Mauroy, ce que j'appelais tout à l'heure l'effet Mauroy, et la non-régularisation de 98. Bon, c'est ce qui se retrouve aujourd'hui et qui très certainement a bénéficié au Front National. Ceci dit, je voudrais quand même ajouter que souvent on insiste sur le fond de racisme important en France. Et c'est vrai, il a ses raisons spécifiques, pas ses raisons justifiables, mais ses causes, disons, spécifiques, qui plonge ses racines dans l'inconscient colonial, dans la frustration des défaites françaises dans les guerres coloniales d'Algérie et d'Indochine, etc., et plus la peur sociale. Mais je dirais qu'en même temps, il y a des ressources importantes et des contrefeux importants face à ces tendances racistes dans la société française. Ce qui s'est manifesté ces dernières années à travers le réseau Éducation sans frontières, sa présence assez massive dans le monde scolaire et universitaire, etc., montre qu'il y a en même temps un attachement à des principes de base élémentaires universalistes, le bon côté de l'universalisme, il y a le mauvais qu'on critique, mais il y a aussi le bon côté de l'héritage, qui est important en France. Je ne veux pas dire, on ne sait pas comment ça va se passer, mais que ces ressources-là, qui font d'ailleurs que par rapport à ceux qui... En 2002, vous vous en rappelez, après le premier tour de l'élection présidentielle, s'alarmer quasiment de la possibilité d'une imminente marche sur Rome de Le Pen, d'un espèce de scénario mussolinien, etc., ce qui était quand même au moins déraisonnable. L'alerte était à prendre au sérieux, mais on n'était pas dans une situation de pré-coup d'État fasciste. Bon, mais enfin, la peur a quand même servi a été le ressort d'un vote Chirac, c'est-à-dire de faire voter 80% de la population pour l'escroc et le menteur. Bon. Mais qui aurait imaginé à l'époque qu'en moins de, 5 ans, finalement, bon, je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de la gauche critique ou radicale, appelons-la comme on veut, a pratiquement rétabli l'équilibre par rapport au recul du Front National. On peut dire que, bien sûr, c'est aussi parce que Sarkozy et Hortefeux ont recyclé les thèmes du Front National dans la politique gouvernementale qu'il n'a plus trop de raison d'être. Mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que c'est aussi le fait que la détresse sociale a trouvé d'autres canaux d'expression, d'autres formes d'expression, que des gens qui auraient pu basculer de ce côté-là par désespoir peuvent trouver un autre moyen d'exprimer leur colère et leur révolte. Donc ça, c'est important. Et je crois malheureusement que le phénomène n'est pas épuisé, hein, avec la crise économique actuelle qui vient, et qu'elle peut prendre, paradoxalement, dans des pays voisins. On l'a vu avec c'est encore pire, d'une certaine manière, que ce qu'on a connu, hein, même si ce qu'on a connu est grave. La gauche italienne s'associant ou prenant l'initiative de la campagne d'expulsion des Roms, qui sont en plus des citoyens européens, hein, du point de vue légal. Je crois que des sociétés comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont finalement moins habitué au mélange culturel, risquent d'être plus violentes dans leur réaction par rapport à leurs immigrés. Ce qui s'est traduit en Espagne, notamment dans le sud, sur la question de l'immigration marocaine, ou par rapport aux latino-américains, andins, péruviens, boliviens ou dominicains. Voilà, donc le problème, en tout cas, maintenant, est un problème pas seulement français, mais est réellement un problème européen, notamment avec la mobilisation, ça c'est l'actualité immédiate, contre l'infâme circulaire retour qui installe, en fait, des camps de rétention. Je veux pas, il faut se méfier un peu des analogies historiques, mais enfin, qui rappellent de beaucoup les camps de rétention pour réfugiés d'Europe de l'Est ou réfugiés juifs dans le sud de la France, à la veille de la... On n'est pas à la veille d'une guerre mondiale, du moins on peut l'espérer, encore que, d'une certaine manière, sous une autre forme, on y est. Mais voilà, donc, on est dans cette configuration-là. Et finalement, l'expérience accumulée par toutes ces luttes de l'immigration en France est peut-être un atout pour être, pas seul, mais un des moteurs de la construction d'un mouvement européen sur la question de l'immigration.
Cette évacuation, c'était l'Arlésienne, on en parlait beaucoup, mais elle ne venait jamais. Ce matin, les sans-papiers l'attendaient, une fois de plus, ils s'attendaient à être délogés à l'aube. L'aube est venue et toujours rien. Et puis finalement, c'est à 7h15 que les forces de l'ordre ont investi l'église Saint-Bernard dans le 18e arrondissement de Paris. Elle était occupée depuis le 28 juin par quelques 300 Africains qui s'étaient installés là, après avoir été chassés de la première église, l'église Saint-Ambroise, où ils étaient arrivés au mois de mars. C'est donc le énième rebondissement de cette crise qui dure depuis 5 mois, rebondissement attendu après les déclarations hier d'Alain Juppé. Reprenons dans l'ordre le fil des événements. Benoît Colomba, vous étiez sur place avec les sans-papiers lorsque gendarmes mobiles et CRS sont arrivés.
Oui, toute la nuit, les sans-papiers ont redouté cette expulsion. L'un de leurs porte-parole, Diop Boubacar, prend la parole vers 7h du matin pour mobiliser la foule massée devant l'église.
Restez s'il vous plaît. Les consignes, si jamais on a une alerte, vous restez, vous formez une chaîne en vous accrochant les uns aux autres.
Une demi-heure plus tard, c'est Madigan qui s'adresse à la foule avec un mégaphone. L'expulsion est imminente.
On a montré qu'on était responsable.
Tandis que les cloches sonnent, CRS et gendarmes mobiles encerclent très rapidement l'église, forment un cordon de sécurité devant l'entrée principale, escaladent les grilles, tandis que plusieurs d'entre eux défoncent les portes arrière de l'église.
D'autres chaises !
Le père Henri Coindé, le curé de l'église, demande aux sans-papiers de s'installer sur des chaises pendant qu'ils célèbrent la messe. Au milieu des gaz lacrymogènes, une femme chante et le père Coindé lit un message, le fameux « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
C'est mon sang, venez et buvez. Je fais un rêve que les hommes un jour se lèveront, se comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve ce matin qu'un jour, chaque étranger dans ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier soit jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau.
Dans l'église, c'est la consternation. Certains sont en larmes, d'autres n'hésitent pas à exprimer leur colère.
Filmez tout, filmez, filmez que tout le peuple français voit ce que son gouvernement fait en son nom, au nom de la loi française. Regardez bien comment on respecte les enfants en France aujourd'hui. Regardez derrière, nous avons des 10 personnes qui depuis près de 50 jours aujourd'hui sont en grève de la faim, n'ont ni mangé. Et c'est cela qui restera dans l'histoire. Regardez et voyez où est la civilisation et où est la barbarie.
Les 10 grévistes de la faim sont évacués par les médecins-pompiers de Paris vers 2 hôpitaux militaires. Peu à peu, l'église se vide. L'une des porte-paroles du mouvement Madigan a juste le temps de prononcer quelques phrases avant d'être sortie de l'église Manu Militari.
Nous trouvons que c'est scandaleux et que le ministère de l'Intérieur nous invite au dialogue et que M. Juppé parle de réexaminer les dossiers et que nous soyons évacués de cette façon scandaleuse. Nous disons que ce n'est pas digne de la France.
Et puis devant l'église, des dizaines de bus quittent les lieux avec les familles africaines.
Viens, après on va prendre les poussées. Allez. On ne sait pas où on va. Même en Afrique, on s'en fiche.
Et donc, les trois quarts ont parti escortés par la moto 452.
La plupart des Africains sans papiers sont conduits au centre de rétention administrative de Vincennes. Chacune des situations va maintenant être décortiquée afin de savoir précisément qui doit être expulsé.
Saint-Bernard,
sans papier,
sans papier,
Saint-Bernard,
Saint-Bernard. J'aimerais le pain, l'original, Charles Pasqua, la faute.
Nous n'avons pas.
Et voilà, c'était donc 1996, l'hymne des sans-papiers de Saint-Bernard. Et qui retentissait dans chaque manifestation sur les camions sono dans les très nombreuses manifestations qui dans ces années-là soutenaient les mouvements de sans-papiers autour justement du cas ou du point de fixation de Saint-Bernard. Alors voilà, donc c'est terminé. On a entendu les 13 épisodes du 20e siècle de Daniel Ben Saïd. En attendant qu'un jour on ait le courage et l'énergie de faire de tout ça un coffret avec 3 CD et une très jolie pochette, tout ça se retrouve sur le site des oreilles loin du front, c'est loldf.org, et vous retrouvez donc les quatre émissions qui ont vu la diffusion de l'ensemble des épisodes, et puis vous retrouvez aussi je crois quatre années d'archives de cette émission avec les dossiers, mais aussi vous retrouvez les chroniques les désormais légendaires chroniques rock'n'roll de Guillaume Yom, et puis toute une série de sons. Donc voilà, tout ça c'est sur loldf.org, et généralement les émissions en moins de 4 mois arrivent sur le site après leur diffusion à l'antenne. Voilà.
Hey, what, dans ma mairie y a des fatmas, et des youyou, des foulards, des babouches, et des boubous. Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous. Fichtre, ma fille va épouser un morico. Notre coquerie youyou au lieu de cocorico. Elle s'est mise en tête de se convertir, rejoindre notre camp. J'aurais encore préféré que ce soit un mariage blanc. Mais je les vois, on dirait des gitans. L'argent des alas transformé en or sur les cartons. Moquerait plus que le voyage de noces en Afghanistan.
Jamais sans ma fille.
Je souffre déjà de ce qui m'attend. Et quand ils dansent, on dirait une émeute.
Et qu'est-ce que ta mère fait toi?
Qui fait baver la meute? Les pères ont les claquettes, les filles ont les baskets. Même avec le costard, la racaille met des casquettes. Ma fille s'appelle Marianne et je vis le drame.
Mahabibi Yallah.
Ça plaît même à ma femme. Je suis déçu, moi qui pensais qu'ils étaient polygames. J'aurais peut-être pu présenter mes maîtresses à ma femme. Hey, ouais. Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous.
Chers concitoyens, en vérité je vous le dis, dans ma mairie les mariages blancs entre noirs et même entre gris d'ordinaire. Je les vois débarquer à 500, 20 hommes, 80 femmes et 400 enfants indisciplinés. Ils mettent la mairie sans dessous dessous. C'est dans leur gène, c'est comme ça que voulez-vous. Et quand je dis à un monsieur qui peut embrasser la mariée,
oh, devant tout le monde.
Ils sont bizarres, je vous jure, ils sont pas comme nous en plus. Ils sont pas discrets, c'est sûr, on n'est plus chez nous. C'est comme cette équipe de France, que des noirs et un boulmoule. Ça écoute du rap et ça mange de la semoule. Mais quel droit? Tu ramassacres la Marseillaise, mais quel point ces voyous représentent la nation française. On est envahis par les indigènes de la bouche. Si vous agitez le bruit des youyou, l'odeur
et
des couscous.
Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous.
Des tam-tams et des marabouts, hey, ouais. Des grosses moustaches, des zoulous, des danses vaudou. Ça baragouine des charabias,
hey, ouais. Il est là,
des 2.9, c'est hell and best. Faut les voir quand ils débarquent avec toute leur soumala, avec toute leur marmaille, on se croirait à la casse-bas. Ils nous emmerdent, ils nous saoulent avec leur tradition, leur code de la famille, leur rituel, leur religion. Je suis pas raciste,
ouais, non.
Mais là y'a des limites,
ah, oui.
En France, monsieur, on a des règles de conduite. Il y a un siècle, ils étaient tous encore parqués dans des eaux. Et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre boulot. Président de la République,
bah,
c'est le monde à l'envers, y'a plus d'hiérarchie, plus de respect. Ça veut même plus rien dire d'être un vrai Français.
Dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou.
y'a des Fatma et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des Fatma et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des Fatma et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous.
C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission dans le poste qui proteste. Ce soir, autour des micros, autour des boutons, on retrouvait la garde rouge de la radio libre et indépendante avec ce soir le toujours impeccable, raffiné, élégant Raphaël et la nouvelle et prometteuse reporteuse Aude. On était aussi avec Alex, on sera bientôt avec Claudie et Claudia puisque voici qu'arrive l'écho du Capricorne.